Chapitre 4. Maître Ruspan, expert. À 8 heures du soir, le téléphone sonna. Raoul attendait patiemment dans son profond fauteuil de cuir. Il étendit nonchalamment la main et saisit le récepteur. « Allô ? » fit-il en bâillant.
« C'est Gabillon à l'appareil. »«
Ah ! Comment cela va-t-il ? »
« Beaucoup mieux, merci. »«
Quel bon vent !»«
J'ai appelé Maître Ruspan tout à l'heure, et il peut nous recevoir demain à 10 heures. »«
Nous recevoir !» pensa Raoul avec satisfaction. « Très bien, le poisson a fait la bévue et a mordu à l'hameçon. Parfait, parfait !» Il fit mine de ne pas avoir compris tout le sens de la phrase et dit « Eh bien, bon voyage, mon cher. Béchou va avec vous ?»«
Non, il n'a pas de voiture, et moi je n'aime pas conduire en dehors de Paris. »«
Alors vous prenez le train ?»«
Je voulais vous demander... »
Il hésita un moment.
« Vous êtes libre demain matin ?»«
Demain matin... Une seconde... Oui, je n'ai rien de prévu avant la soirée. En quoi puis-je vous être utile ?»
Si cela ne vous ennuie pas trop, si c'est possible...
Que je vous emmène, mais avec plaisir. J'adore la Normandie, et je me ferai une joie de vous accompagner.
C'est gentil à vous, merci alors.
Je passe vous prendre demain à 8 heures devant le musée.
D'accord, merci. J'aurai la chose avec moi. Merci encore.
Raoul raccrocha le combiné et sauta sur ses jambes. Il esquissa un entrechat et se frotta les mains avec satisfaction. « Eh bien, voilà qui commence à prendre tournure !» se dit-il. « On va enfin s'amuser !» À 7h30, le lendemain, la Joconde était encore là. Du moins, toutes les apparences le donnaient à croire. Béchou, qui avait encore passé la nuit dans la salle des peintures Renaissance, s'était retiré. Monsieur Gabillon s'adressa à Isabelle et, sur sa demande expresse, la jeune femme accepta d'abandonner pour une journée sa qualité de guide de musée. Elle lui servirait de guide privé jusqu'à Rouen. Sa tâche serait double, assister son patron au cours de cette journée et en même temps ouvrir l'œil et le prévenir de toute menace. Une fois que Monsieur Gabillon eut coupé le système d'avertissement électrique, ils décrochèrent le portrait et le déposèrent sur une nappe de satin étendue sur une table. Ils l'en enveloppèrent soigneusement avant de l'introduire dans un étui de carton ressemblant à une grande boîte à dessin. Enfin, ils ficelèrent le paquet et Isabelle le glissa sous son bras gauche. Elle se posta à la droite de Monsieur Gabillon de façon à ce que le tableau fût protégé entre deux. « En route !» dit le conservateur. La puissante Bentley de Raoul attendait dehors. Il fut ravi de voir Isabelle s'installer à ses côtés dans l'auto. Monsieur Gabillon prit place à l'arrière après avoir glissé sa Joconde entre le siège de Raoul et sa banquette. « Où qu'on va, monsieur ?» demanda Raoul en imitant l'accent d'un chauffeur de taxi. « Place Jeanne d'Arc à Rouen, mon brave !» fit Monsieur Gabillon, répondant de la même monnaie. La voiture, pilotée de main de maître, démarra rapidement et fonça vers le nord à travers Paris. « Chez qui allons-nous ? » demanda Isabelle. « Chez maître Ruspan. Il a un bureau d'études sur la place Jeanne d'Arc et reçoit les clients le lundi et le mardi. Il est notaire aussi. »« Ruspan, c'est pas français, ça ?» remarqua Daverny. « Non, il est né en Australie. C'est d'ailleurs une histoire qui pourrait nous occuper pendant tout l'aller-retour, » dit Monsieur Gabillon. Il n'attendit d'ailleurs pas qu'on lui posât des questions. De lui-même, il raconta tout ce qu'il savait de l'expert en art. L'histoire commençait en 1874 dans une plaine de minerais, à quelques 60 km de Melbourne. Un dimanche après-midi, vers 5 heures, des bruits de fracas retentirent dans la cabane du mineur Ruspan. Des cris, des jurons, des hurlements de douleur, et l'épouse du mineur se précipita sur la route, poursuivie par son mari, titubant, ivre-mort. Elle eut le temps de le voir trébucher sur un amoncellement de gravats et de vieux pots de métal rouillés et s'abattre la face contre terre. Elle continua à courir pendant 2 ou 3 kilomètres et s'arrêta, haletante. Elle se retourna. Personne ne la poursuivait. Mais le soleil frappait impitoyablement. Elle était enceinte et devait accoucher sans doute dans le courant de la semaine suivante. Elle marcha de son mieux le long de la route, mais après avoir parcouru encore quelques kilomètres, elle tomba d'insolation sur le bas-côté. Une ou deux heures plus tard, le consul de France à Melbourne et sa femme, rentrant d'excursion dans la région, remarquèrent ce corps inerte dans le fossé et le transportèrent dans leur calèche. Ils parvinrent à la ranimer, mais elle était brûlante de fièvre et toute contusionnée par les coups reçus. Elle leur raconta en quelques phrases sourdes et saccadées ce qui lui était arrivé, la vie lamentable des mineurs cherchant vainement l'or dans la plaine, et son existence brisée. Pendant une semaine, elle vécut dans un demi-délire entre la vie et la mort, et finalement elle expira en mettant au monde un garçon. Dans ses dernières douleurs, elle cria deux ou trois fois « Élie, Élie, lama sabachthani !» Et à tout hasard, le consul et sa femme appelèrent l'enfant Élie. Toute son enfance se passa donc au consulat, où ces braves gens semblaient avoir été affectés pour de longues années. Eux-mêmes n'exprimaient d'ailleurs aucune envie de regagner la mère patrie. À l'âge de 15 ans, comme il montrait un vif intérêt pour l'art et la menuiserie, on l'envoya au collège d'art de Melbourne. À l'âge de 19 ans, il était déjà diplômé, chose très rare. Il compléta ses études à la faculté de droit, où il se montra très brillant. Vers 1900, le consul et sa femme rentrèrent en France. Élie ne se décida pas pour l'une ou l'autre des nationalités auxquelles il avait naturellement droit, étant de mère australienne, mais née sur le territoire diplomatique français. Il commença donc à faire la navette entre les deux pays, et il s'occupa lui-même de prospections minières. Il retrouva le village où ses parents avaient vécu, et apprit ainsi que son père s'était pendu le jour même de la fuite de sa femme. Le mineur avait laissé un papier où il disait « Elle est partie, cette fois je ne pourrai plus la rattraper, alors il faut en finir. » Le consul mourut quelques années après sa femme, abandonnant à son fils adoptif des ressources qui le laissèrent à l'abri du besoin pour le restant de sa vie. Après quelques aventures amoureuses assez douloureuses, il avait décidé qu'il ne se marierait pas. Il vivait maintenant en Normandie, où il tenait son étude d'expert et de notaire. De temps à autre, il prenait le large et retournait pour quelques mois dans son pays d'origine. Puis il refaisait surface à Rouen. Ses expertises étaient très appréciées de tous les spécialistes. Ses honoraires n'avaient rien d'exorbitant. C'était un homme affable et cultivé, à la conversation charmante. Il attribuait son léger accent étranger à ce qu'il était normand. Et quand on lui demandait avec étonnement s'il était bien de Normandie, il répondait, avec son léger accent bizarre, « Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. » Eh bien, on va s'amuser, n'est-ce pas, mademoiselle Isabelle Levallier ? Isabelle acceptait de bonne grâce que son patron l'appelât Isabelle. Cependant, la familiarité de Raoul la surprit. Tout séduisant qu'il fût, elle ressentait une certaine gêne vis-à-vis de cet homme fort, courageux, intelligent, mais arrogant. « Il y a tellement d'ailes dans votre nom, mademoiselle Isabelle Levallier. Moi, je n'en ai qu'une seule. Si j'en avais deux, je volerais à travers le monde pour m'agenouiller devant vous. » Monsieur Gabillon sourit. « Mon cher Raoul, je vous conseillerais de surveiller votre volant au lieu de faire votre cours à mademoiselle. Au prochain tournant, on va se retrouver dans le fossé. » Il était 10h05 lorsque la Bentley verte se gara le long du trottoir de la rue des Quatre Rois qui donne sur la place Jeanne d'Arc à Rouen. Le soleil paraissait un peu plus malade qu'à Paris, mais parvenait pourtant à se faire une place honorable entre les nuages qui filaient au vent d'ouest. Maître Ruspan exerçait au premier étage. Ils sonnèrent. La porte s'ouvrit sur un homme aux cheveux grisonnants. Il devait avoir 55 ans environ. L'âge et la contemplation des objets d'art lui avaient donné un dos un peu voûté, mais son regard vif et l'expression affable de son visage le faisaient paraître encore jeune. Il portait un complet de bonne coupe, quoiqu'un peu antique, et une cravate nouée de façon méticuleuse. Il s'effaça poliment pour laisser rentrer les trois voyageurs. L'étude était une pièce assez vaste, éclairée par deux fenêtres donnant sur la place. Entre les deux fenêtres, une vaste bibliothèque empire où reposaient des livres d'art, des brochures et des livres anciens à dos de cuir. Il y avait aussi quelques bibelots curieux qui n'avaient pas l'air d'avoir une grande valeur. Sans doute, tout cela présentait un certain intérêt pour les amateurs de bibelots curieux. Le long du mur, à gauche et à droite de la porte, des armoires de métal où l'on apercevait des dossiers au ventre replet et de grandes enveloppes de tailles diverses. Sur la grande table, recouverte d'une plaque de verre, une puissante lampe électrique, une grosse loupe dans un écrin ouvert, un microscope d'aspect très moderne, des tampons, des seaux, du papier à lettres dans une jolie boîte de carton qui évoquait un peu celle de Madame de Sévigné ou de la Pompadour, et un téléphone. Deux fauteuils de cuir bien rembourrés pour les clients, deux chaises pliantes en cas de besoin, le fauteuil du notaire lui-même, un joli lampadaire en cuivre et un lustre rustique au plafond. Pas de tapis sur le plancher bien ciré, tout cela bien propre, sentant la résine et le clou de girofle. « Comment allez-vous, cher maître ?» demanda M. Gabillon. « Ma foi, cela fait un temps qu'on ne vous a vu chez la Pucelle, M. Gabillon. » Maître Ruspan se tut et regarda les deux autres arrivants. M. Gabillon présenta Isabelle Levallier, guide au musée, et M. Daverny, un ami qui nous a emmenés ici et qui nous aide de ses bons conseils. Raoul remarqua l'attention que le notaire apporta à l'examen des nouveaux venus. Il scruta d'abord la jeune femme, puis l'observa, lui aussi, assez longuement, mais sans le toiser de haut en bas. « Expert en œuvre d'art, » se dit Raoul. « Il regarde tout comme par le petit bout de son microscope, ce client-là. » Maître Ruspan s'assit, ce qui sembla signifier aux autres qu'il pouvait en faire autant. Raoul choisit une des chaises pliantes et se tint un peu en retrait. « Qu'est-ce qui me vaut le plaisir ?» Isabelle posa délicatement le paquet sur la table et Maître Ruspan le contempla de son air de fin limier biologiste. Elle défit les ficelles qui tenaient le carton, extirpa l'objet enfoui dans le satin et le déposa devant Maître Ruspan. Raoul observait la scène avec le plus grand intérêt. M. Gabillon ne quittait pas son hôte des yeux. Celui-ci sourit et dit « Ah oui, j'ai vu dans le temps normand. On ne s'embête pas en ce moment à Paris. » Il prit respectueusement le tableau entre quatre doigts effilés. Raoul remarqua qu'il ne semblait même pas avoir regardé le visage rondelet et souriant de la Florentine. Maître Ruspan passa un doigt le long du cadre, regarda un instant et retourna le portrait. Il examina le panneau de bois. Allumant la lampe électrique, il l'attira vers lui. Il projeta le faisceau lumineux sur un angle intérieur et observa, la loupe à la main. Il reposa la loupe, retourna le tableau, le déposa sur le tissu de satin et se redressa lentement dans son fauteuil. Il regarda M. Gabillon qui le scrutait toujours en silence d'un air anxieux. Puis il porta son regard sur Isabelle qui l'observait de même. Il leva ensuite les yeux sur Raoul et sembla hésiter un moment. À nouveau, son regard se tourna vers le conservateur. M. Gabillon dut sentir plutôt que comprendre ce qu'il voulait dire, et murmura. « Je réponds de M. Daverny comme de moi-même. Vous pouvez parler devant lui en pleine confiance. » Maître Ruspan commença son réquisitoire. « Le cadre est bien en hêtre, comme celui qui fut construit par Chabria à Fontainebleau en 1682. Mais on remarque, surtout aux angles, où l'effort de la scie est plus prononcé, que l'instrument utilisé était une lame de Sheffield en acier trempé. Or, les scies de ce genre ont commencé à apparaître en Angleterre d'abord, puis sur le continent vers 1832. Donc le cadre n'est pas celui de Chabria. Cela en soi n'a pas grande importance. Ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est que le panneau de bois sur lequel ce chef-d'œuvre a été peint est lui aussi en hêtre massif. Alors que demanda M. Gabillon, qui montrait une angoisse croissante. Alors que l'original a été peint sur un panneau de peuplier. De sorte que ce tableau est un faux. Un faux très ressemblant, mais un faux. Que dites-vous ? s'écria Raoul, se levant d'un bond et se contenant avec peine. « Je dis que c'est un faux, » répondit paisiblement maître Ruspan. « Depuis combien de temps c'est celui-ci que l'on vient admirer dans votre musée, monsieur Gabillon ? Un siècle, 50 ans, un mois, un jour, je ne saurais dire. »« Mais c'est impossible !» s'écria encore Raoul. « Vous mentez !» Maître Ruspan eut un léger sursaut et regarda Raoul avec mécontentement. Monsieur Gabillon était consterné. Prostré dans son fauteuil, il voulait éclater en sanglots et se jeter par la fenêtre. Les idées tourbillonnaient dans son pauvre cerveau tourmenté, mais il ne broncha pas. Isabelle contemplait les acteurs de ce drame sans sembler comprendre le sens profond des paroles prononcées. Raoul allait et venait en maugréant de temps en temps des mots de refus et de révolte. « Cela ne se peut pas, c'est impossible !» Se rappelant les paroles de Blaisy, « Impossible n'est pas Lupin », il se domina et se rassit, songeur et accablé. Maître Ruspan attendait. Il avait l'air un peu gêné de la consternation générale qu'il avait provoquée. Dans le silence lourd de la pièce, il murmura. « Il faudrait peut-être une contre-expertise. » Monsieur Gabillon haussa légèrement les épaules. C'était bien inutile, tout le monde le sentait. « J'ai eu maître Dandelin au téléphone ce matin. Il est rentré à Paris plus tôt que prévu. J'ai pensé à la raison possible de votre visite et à l'éventualité des résultats assez lamentables auxquels je suis effectivement arrivé. Je lui ai annoncé votre probable venue chez lui. Il vous attendra à 8 heures du soir dans son étude. » Cette nouvelle donna un peu de force à monsieur Gabillon. « Oui, je crois que c'est nécessaire. Vous savez que j'ai toute confiance en vous, maître, mais dans un cas pareil, la loi m'oblige à une seconde expertise. » L'entretien était terminé. Les 4 interlocuteurs ne bougeaient pas. En moins de 20 minutes, 400 ans d'histoire de l'art venaient de s'abattre comme un château de cartes. Le principal artisan de ce cataclysme ne semblait pas s'en émouvoir outre mesure. Il ne comprenait sans doute pas l'ampleur du désastre qu'il avait provoqué, tout occupé qu'il était par ses coups de scie, sa peinture craquelée et son vernis déteint. Il se leva le premier. Raoul l'imita vivement, avança vers lui, et les yeux dans les yeux, d'un regard aigu, perçant, il articula. « J'espère que vous vous êtes trompé, maître. Sinon... » Il n'acheva pas sa phrase. Les 3 autres le regardèrent avec une certaine surprise. Que voulait-il dire par le mot « sinon » Était-ce une menace? Un espoir? Une conclusion? Raoul lui-même n'en savait rien.